Il est maintenant 19h30, c'est Radio France Internationale que vous écoutez à Paris.
Afrique Soir.
Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Philippe Le Caplan, bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil norvégien pour les réfugiés dénonce l'inaction et l'indifférence de la communauté internationale face à la guerre qui dévaste le Soudan. L'organisation humanitaire appelle à exercer plus de pression sur les acteurs du conflit pour exiger des accès. Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire pour la deuxième journée d'enrôlement des ressortissantes guinéennes d'Abidjan. Opération initiée après des plaintes contre des agents de la police municipale pour des faits de violence. 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035, engagement pris par les pays développés ce dimanche à Bakou pour financer davantage les pays dits pauvres menacés par le changement climatique, un engagement jugé insatisfaisant par ces derniers. Enfin, la mort du peintre et poète sud-africain Bretton Breitenbach ce dimanche à Paris à 85 ans. Militant anti-apartheid dans les années 70, Bretton Breitenbach est renommé en Europe pour son œuvre picturale, mais dans son pays natal, il est surtout connu pour ses poèmes. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre particulièrement meurtrière. L'armée du général Al-Burhan et les forces du général Hemeti se battent pour le contrôle du pouvoir. Un conflit qui a plongé ce grand pays d'Afrique dans une profonde crise humanitaire. Alors que les deux camps sont accusés par l'ONU d'utiliser la faim comme arme de guerre, le Conseil norvégien pour les réfugiés pointe l'inaction de la communauté internationale. Jan Egeland, le directeur de l'organisation humanitaire, exhorte les diplomates et les Nations Unies à exercer plus de pression sur les acteurs du conflit pour exiger des accès.
Nous n'obtenons pas de visa pour nos travailleurs humanitaires. Nous n'obtenons pas les permis dont nous avons besoin pour mener à bien nos opérations. S'agissant de l'aide transfrontalière, c'est fluctuant, ça va, ça vient. Et le plus souvent, aucune des deux parties ne nous laisse distribuer de l'aide de l'autre côté de la ligne de front. Le NRC a pu acheminer de l'aide humanitaire. C'était il y a quelques semaines. Et j'ai été heureux de voir que notre programme alimentaire a pu atteindre El Fasher. C'est dans le nord du Darfour. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous sommes face à un compte à rebours, vers la famine, vers l'effondrement, vers des horreurs, avec ce qui est la plus grande urgence humanitaire au monde.
Greatest humanitarian emergency.
Un propos recueilli par Florence Maurice. En Côte d'Ivoire, les Guinéennes d'Abidjan peuvent demander des cartes consulaires gratuitement. L'établissement de ces papiers d'identité coûte plusieurs milliers de francs CFA en temps normal. Cette décision des autorités de Conakry et de l'ambassade de Guinée à Abidjan fait suite au signalement de cas de maltraitance et d'agression subis par des vendeuses de rue le mois dernier. Les plaignantes accusent des agents de la police municipale de les avoir violentées. Une opération d'enrôlement s'est donc déroulée ce matin à Yopougon, dans une école publique de cette banlieue de la capitale. Économique ivoirienne. Reportage Benoît Almiras.
L'établissement scolaire est transformé en un bureau d'état civil de fortune. Un agent du consulat guinéen prend les empreintes et les photos des demandeuses.
Main gauche. L'index, trois fois.
Là, je suis en train de valider le dossier. Ça veut dire que désormais, ces femmes-là sont identifiées au niveau de l'ambassade.
Elles sont au moins 300 assises à l'ombre des préaux. Des Guinéennes sans papier, originaires pour la plupart de la région de Nzérékoré, à la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est le cas d'Antoinette. Cette petite commerçante voit la carte consulaire comme une protection contre les tracasseries.
Quand on veut voyager comme cela, là, souvent on nous arrête sur la route pour demander nos pièces. Si on n'a pas de pièces, on est obligé de payer sur la route.
Vous pensez qu'avoir vos pièces, ça va vous aider complètement ?
Ah, ça va nous aider même largement.
Pour d'autres, une carte, c'est une sécurité. Gérard Lecadou organise l'opération avec la Fondation Abba Afrique. Pour lui, il faut aussi sensibiliser les commerçantes au respect des lois ivoiriennes.
Le plus important, c'est qu'elles ne soient pas en conflit avec la loi. Parce que c'est parce qu'elles ne respectent pas la loi que souvent certains profitent pour abuser de leur ignorance ou de leur vulnérabilité.
Selon Abba Afrique, le consulat de Guinée à Abidjan prévoit de délivrer 1000 cartes consulaires gratuites. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Au Mali, la colère de la maison de la presse après l'annonce du retrait de la licence de la télévision privée Djoliba TV News. Décision de la haute autorité de la communication. La maison de la presse dénonce une décision disproportionnée et annonce l'envoi d'une délégation auprès de la HAC pour demander aux autorités maliennes de la reconsidérer. Dans un communiqué, elle menace même de multidiffuser l'extrait incriminé par la HAC. 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, c'est le nouvel objectif collectif quantifié. À la COP29 de Bakou, ce dimanche en Azerbaïdjan, les pays développés se sont donc engagés à financer davantage les pays pauvres menacés par le changement climatique. Le précédent objectif fixé en 2009 était d'atteindre 100 milliards par an en 2020, mais le nouveau montant est loin des attentes et des besoins des pays en développement. Et certains, ONG ou négociateurs, estiment que ce n'est pas un triplement effectif. Les explications de Pauline Glaise.
Premier élément mis en avant, notamment par les ONG, l'inflation qui rogne peu à peu l'impact de l'aide promise. Difficile de se projeter à horizon 2035, mais pour faire ce que l'on faisait avec 100 milliards de dollars en 2009, il en faudrait un peu moins de 150 milliards aujourd'hui. Ensuite, le calcul des aides directes et de l'aveu d'experts difficile à calculer tant les leviers de financement sont variés. Alpha Kaloga, négociateur de la Guinée, estime que l'effort direct des pays développés sera inférieur à 300 milliards de dollars. Son calcul, les banques multilatérales de développement seront en mesure de fournir 120 milliards de dollars en 2030 sous forme de prêts, assure-t-il. Or, l'accord incorpore une nouveauté dans la comptabilisation des aides. Arjit Singh, du Climate Action Network, l'illustre avec l'exemple de la Chine.
Si la Chine fournit de l'argent via des institutions multilatérales comme la Banque mondiale, cet argent sera comptabilisé, si la Chine l'accepte.
Au-delà de savoir qui paie, l'une des questions principales, c'est sous quelle forme.
Il n'y a pas de démarcation claire entre la part de fonds mobilisés sous forme de subventions et la part de financement qui inclut des prêts.
Une différence qui a d'autant plus d'importance quand les pays bénéficiaires sont déjà endettés.
Le peintre et poète sud-africain naturalisé français Breitenbach est mort ce dimanche à Paris où il résidait. Il avait 85 ans. Sa famille a confirmé l'information à RFI et précise qu'il s'est éteint paisiblement. Militant anti-apartheid dans les années 70, Breitenbach a passé 7 ans dans les prisons sud-africaines. Dans les années 90, son œuvre picturale va contribuer à sa renommée artistique en Europe. Mais dans son pays natal, Breitenbach est surtout connu pour ses poèmes. Georges Lory était son traducteur de poésie.
C'était le plus grand poète de sa génération. Et sans aucun doute, pour l'Afrique du Sud, on se souviendra du militant anti-apartheid qui a fait 7 ans et demi de prison et aussi du poète qui est maintenant dans tous les manuels. Des poèmes écrits il y a 50 ans continuent à m'émouvoir de façon très profonde. C'est quand même lui qui a écrit « Je mourrai, j'irai vers mon père ». Donc aujourd'hui, il est en route vers son père et ça me rend particulièrement triste. Il était dans ses jeunes années obsédé par la mort. Ça se voyait aussi bien dans ses poèmes que dans ses dessins de l'époque. Plus récemment, il avait pris de la distance. Alors, il parlait toujours de la mort, mais d'un point de vue beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Mais ça transperçait dans la moitié de ses poèmes. C'est le côté angoissé du personnage. L'autre côté, c'était l'homme amoureux qui était extrêmement lyrique, qui avait des métaphores phénoménales. Moi, j'étais stupéfait à chaque fois de découvrir les associations qu'il pouvait faire. Je dois dire que de ce point de vue-là, c'était un artiste de tout premier rang.
Voilà, propos recueillis par Victor Mourguia. La suite des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 à Dian Bien Phu dans la banlieue de Dakar. Ce dimanche, dans le groupe A, la République démocratique du Congo a dominé l'impressionnante équipe du Sud-Soudan. Une victoire précieuse 76 à 69 qui permet aux Congolais d'être seul leader de ce groupe, à la grande satisfaction de l'arrière de la sélection congolaise, Frédéric Loubaki.
C'est une belle victoire, c'est surtout une victoire collective. On a fait de gros efforts en défense. On est arrivé jusqu'en prolongation, c'est-à-dire que vraiment on a fait beaucoup d'efforts. Et franchement, ça fait plaisir de remporter cette victoire très importante pour la suite. On savait que ça allait être un combat pendant de nombreuses minutes. C'est ce qui s'est passé. Et la pièce est tombée du bon côté. Je pense qu'on a aussi provoqué la chance. Donc voilà, honnêtement, c'est une victoire méritée. Je dirais que c'est la victoire la plus importante parce que nous deux, on était à deux victoires. Et maintenant, voilà, on est la seule équipe du groupe à avoir 3 victoires, donc forcément c'était un match beaucoup plus important que les autres. Honnêtement, on a eu une préparation de courte durée. Mais je suis vraiment fier de mes coéquipiers et du staff et tous ceux qui ont participé pour qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Donc c'était vraiment un plaisir de travailler avec ce groupe-là.
Ouais. On peut recueillir par Babacar Fall, RFI 19h40 à Paris et Kinshasa.